Patrick Jeanmar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Celiade. On va parler avec vous de votre actualité au Midcap Event au Palais Brongniart. Vous rencontrez des investisseurs. Alors, ça a été une année particulière pour vous. C'est arrivé aussi à d'autres biotech, mais vous avez échoué sur une phase 3. Maintenant que c'est quelques mois après cet échec, comment on se remet de ce genre d'événement ? Au-delà de la bourse, bien sûr.
Alors, c'est pas simple. On va mettre la capitalisation boursière de côté. C'est pas simple. Parce que malgré tout, c'est un programme sur lequel on a travaillé pendant 8 ans. On y a cru. C'est d'autant pas simple que les résultats ne sont pas noirs ou blancs. Les résultats sur la totalité de l'accord ne sont pas statistiquement significatifs. Par contre, sous un sous-ensemble significatif qui représente quand même 60%, ces résultats sont très probants. Et donc, ça nous encourage à continuer à rechercher des outils de valorisation de cet outil. On a communiqué début de cette année-ci, donc bien avant l'obtention des résultats, notre stratégie de nous concentrer nos ressources sur la partie immuno-oncologie, l'actif que nous avons acheté en début 2015, et de trouver un partenariat, d'une manière ou d'une autre, pour valoriser les résultats de l'étude, de nouveau, quels que soient les résultats de l'étude, puisque c'était annoncé en avril de cette année. On avance bien. On a maintenant deux avenues principales pour la valorisation de cet actif. D'une part, la recherche d'un partenariat de type classique en pharmacie, soit avec un pharmacien, soit avec un autre type de société pour une licence, où on céderait les droits, il continuerait le développement clinique et nous, société, en tant que propriétaire de la technologie, recevrions soit des royalties, soit des milestones ou une combinaison. L'autre avenue, qui est assez intéressante également sur laquelle nous travaillons, c'est une spin-off. Donc on créerait une entité qui, dans un premier temps, appartiendrait à Celiade, une filiale à 100%, dans laquelle on logerait l'ensemble des actifs, la propriété intellectuelle, le know-how et autres. Et on ferait entrer des investisseurs, probablement des investisseurs professionnels privés, des venture capitalistes, probablement américains, et qui, eux, nous apporteraient le financement et apporteraient à cette structure indépendante le financement pour terminer le développement clinique, puisque vu qu'on a maintenant de bonnes informations cliniques sur le fonctionnement du produit, on sait que ça fonctionne sous un sous-ensemble, mais bien délimité des patients, on a maintenant tous les éléments pour conduire et définir le design de l'étude, la deuxième étude de phase 3, qui celle-ci se continuera aux États-Unis. Et l'objet, en fait, c'est que ces investisseurs financent cette partie. C'est un des moyens identifiés pour valoriser l'actif chez Celiade.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'un échec n'est pas derrière, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a quand même à apprendre et à développer derrière cet échec.
Alors, on a évidemment beaucoup appris, on a la chance. Malgré tout, on n'a pas atteint les objectifs de l'étude, donc il faut reconnaître, il faut être assez humble là-dessus. On a la chance d'avoir appris beaucoup et surtout on a des données cohérentes et consistantes au sein d'un sous-ensemble de patients. Donc ce n'est pas uniquement un Portugais, un Suisse qui fonctionne, non, c'est vraiment dès l'instant où le cœur, la morphologie du cœur, présente un volume bien spécifique en fin de diastole, c'est-à-dire en fin de décompensation, en fin de dilatation du cœur, du ventricule, ces patients-là, la thérapie fonctionne. Donc on a vraiment une base sur laquelle on peut travailler et définir le recrutement de la prochaine étude clinique qui se conduira aux États-Unis et qui sera conduite, je le répète, nous l'espérons, soit par un partenaire, soit par cette spin-off dont je viens de vous parler.
Alors quand on a effectivement ce type d'événement, on se dit aussi peut-être que s'il y avait d'autres produits, s'il y avait d'autres projets en cours, on pouvait peut-être limiter l'impact. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste des projets que vous pouvez avoir ?
Alors, on a la chance d'avoir pu acquérir à un bon prix une technologie qui est très prometteuse, qui est en immuno-oncologie, indépendante de la première, qui est certes est moins avancée en stade de développement, puisqu'on vient de terminer une première étude clinique de phase 1, une étude de dose. On va commencer très prochainement, je l'espère dans les prochaines semaines, une seconde étude qui, elle, va s'adresser au même type de tumeur, donc au niveau des tumeurs liquides dans le myélome multiple et une forme de leucémie, l'AML, mais également, on va ajouter dans cette étude, qu'on appelle une étude parapluie, un umbrella study en anglais, 5 autres tumeurs solides où on va, dans une première phase de l'étude, tester les doses. On va continuer à augmenter les doses pour aller chercher la toxicité, ce qui est fondamental dans ce type d'approche en immuno-oncologie. Et une fois qu'on a la dose, là, on rajoutera des patients par indication dans le but d'atteindre des signaux d'efficacité qui nous amèneraient alors à des études d'enregistrement. Elle, c'est plus tard dans le développement clinique.
Sur la situation financière, on le pose la question à toutes les biotech ou presque. Du coup, elle se situe où en cette année 2016 ?
Alors, on a reporté 86 millions de trésorerie à fin juin, et ceci ne tenait pas compte du premier milestone, le premier paiement que nous avons reçu de notre licence que nous avons octroyée à Ono, donc Ono Pharmaceutical, qui est un des acteurs majeurs en oncologie. Et ce milestone se chiffre à 11 millions d'euros. Donc les chiffres corrigés, appelons-le comme ça fin juin, s'élèvent à 97 millions, qui nous donnent une visibilité financière. Nous avons communiqué fin 2018, c'est probablement un peu au-delà pour nous donner un petit peu de gras. Mais donc on a vraiment une belle visibilité. De nouveau, ceci finance l'ensemble des activités, l'ensemble des programmes actuellement définis dans nos plateformes en immuno-oncologie.
Quand vous aviez parlé des États-Unis il y a quelques temps maintenant, il y avait effectivement cette idée sur la plateforme que vous avez évoquée, sur les produits que vous avez évoqués. Europe, États-Unis, comment vous gérez les développements de l'entreprise ?
Alors le prochain programme en immuno-oncologie se fera, donc une étude clinique, se fera tant en Belgique qu'aux États-Unis dans sa première phase, et dans la deuxième phase, dans la phase d'expansion, elle se fera également dans d'autres pays européens ensemble avec les États-Unis. Donc c'est une étude internationale qui est conduite sous l'égide de la FDA, qui nous permet, mais également évidemment en discussion avec les autorités compétentes nationales européennes, de manière à pouvoir viser des études d'enregistrement à plus long terme dans toutes ces géographies.
Alors on voit les actionnaires qui s'intéressent au secteur des biotech et donc regarder la bourse, avec, ils regardent les cours de bourse, ils voient effectivement des catastrophes, ça a été le cas pour vous effectivement au mois de juin. Qu'est-ce que vous leur dites effectivement en cette fin d'année 2016 par rapport à Celiade, peut-être les espoirs qu'ils avaient sur cette phase 3 eux aussi, comment vous leur parlez ?
Alors, d'une manière générale, notre discours n'a pas changé depuis le début, à savoir c'est un secteur risqué, que ce soit le nôtre ou d'autres sociétés dans notre domaine, donc la diversification est importante. La diversification est importante et, si possible, investir dans des sociétés ou dans des domaines qu'on comprend. Parce que si ce sont des domaines déjà suffisamment complexes, si en plus l'investisseur ne comprend pas dans quoi il investit, comprendre veut dire bien, non, pas uniquement comprendre la science, à la limite c'est le moins important, mais surtout comprendre les échéances qui arrivent pour l'entreprise, où se situe-t-elle, quelle est sa trésorerie par rapport à ces échéances, donc ça c'est fondamental. Par rapport à notre situation à nous, c'est vrai qu'on a perdu plus de 50%, j'espère qu'on a touché le plancher maintenant et qu'on est reparti sur une tendance haussière, mais il faut de la patience. Je suis bien placé pour en parler puisque l'ensemble du personnel de l'entreprise Celiade et moi forcément avons une grande partie de notre patrimoine chez Celiade, et voilà, c'est le même discours que j'ai vis-à-vis de mes employés que j'ai pour moi-même également, de la patience. Si d'aventure certains sont déjà investis sans pour autant ne pas disproportionner leur portefeuille, c'est peut-être pas un mauvais moment de racheter, mais c'est un discours que je pourrais tenir pour l'ensemble des sociétés. C'est une société qui a perdu une belle partie de sa market cap, mais qui dispose d'une belle trésorerie et d'un potentiel de produits en développement, c'est peut-être un bon seuil d'entrée.
Merci Patrick Jeanmar d'avoir fait le point avec nous.
Je vous en prie, merci beaucoup.